identité culturelle. La culture congolaise, dans sa diversité et sa richesse, a un rendez-vous sur Radio Kapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Retrouvez toute l'équipe tous les samedis à 8h30, le mardi à 14h15.
Bien, comment bien organiser une urgence humanitaire? Les catastrophes naturelles ou les conflits armés occasionnent la survenue des situations imprévues, telles que le déplacement des populations et des dégâts matériels importants, ce qui nécessite des solutions urgentes pour sauver des vies humaines et prévenir tous les autres dangers liés à ces genres d'événements inattendus. Alors comment s'y prendre pour bien organiser une urgence humanitaire? Parce que généralement chez nous, quand des choses comme ça arrivent, on est pris au dépourvu et on ne sait pas par où commencer et comment intervenir. Eh bien, nous recevons Monsieur Florentin Cotine, coordonnateur du Centre international pour la formation professionnelle spécialisée. Encore une fois, bonjour Florentin.
Bonjour Marcel.
C'est jeudi plutôt.
Ah, jeudi.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par urgence humanitaire?
Une urgence humanitaire, comme on le dit le nom, d'abord, c'est une situation auquel on ne s'attend pas et qui forcément entraîne un déplacement de nombreuses personnes. Et puis, quand on parle de déplacement, il y a des problèmes qui occurrent, et notamment des épidémies, notamment des maladies, des problèmes auxquels on ne s'entendait pas. Et donc, si on ne s'y prend pas, forcément, la situation s'aggrave. Et le cas le plus récent où le monde entier a été témoin, c'est le cas du Libéria, par exemple, où au vu et sous de tout le monde, près de 15 000 personnes sont parties en moins de 3 mois. Et parce que les gens ne s'entendaient pas. Et donc forcément, il n'y a pas une réponse immédiate.
Ils sont partis à cause de quoi?
Pas manque, pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y avait pas forcément une préparation du personnel. Il n'y avait pas une préparation de la population parce qu'ils ne s'attendaient pas. Il n'y avait pas aussi une préparation au niveau de la coordination pour...
Qu'est-ce qui était arrivé? C'était quoi?
C'était une épidémie d'Ebola. Ça fait pratiquement 2 ans ou 3 ans et 20 000 personnes sont parties du coup. Et sans oublier au fait les autres régions qui sont aussi affectées. Donc pour répondre à votre question, c'est une urgence, c'est cette situation auquel on ne s'entendait pas. On ne s'entend pas et ça arrive. C'est le cas, par exemple, des catastrophes. Ici, en RDC, nous avons vu, il y a de cela une semaine, il y a encore la panique, une fois encore au Nord Kivu, avec la situation du tremblement de terre. Bon, les gens peuvent que le volcan puisse, une fois encore, jaillir. Et bon, voilà. Donc, ici, au fait, ce que nous voulons, au fait, communiquer avec les auditeurs, c'est d'abord les défis. Nous vivons aujourd'hui dans un contexte rempli de défis. Et ces défis, forcément, il y a moyen de gérer ces défis.
De gérer ça,
oui. Il y a moyen de gérer.
Il y a aussi des inondations qui arrivent ça et là.
Tout à fait.
Oui.
Et l'histoire nous a prouvé que les défis, depuis 2000 jusqu'à ce jour, par exemple, et nous avons, le centre nous a enregistré plus de 38 guerre et rébellion en Afrique. 38, je vous dis. Donc, ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas là pour dire forcément que nous sommes pessimistes, mais 38 guerres depuis 2008, de 2000 seulement. Ça veut dire que c'est beaucoup. Si je peux vous citer quelques-uns, il y a par exemple la guerre civile de la Côte d'Ivoire, la guerre civile du Darfour, la guerre du Kivu, les premières guerres civiles en Centrafrique, les guerres tchadiennes. Donc, toutes ces guerres, ces déplacements, ça entraîne une forte...
Le déplacement des populations civiles.
Oui, parce qu'ils ont peur de mourir. Il y a la guerre, par exemple, l'intervention militaire de l'Éthiopie en Somalie. Récemment, nous avons eu la situation du Tchad, la situation du Mali. Et il y a aussi la situation de Boko Haram qui ne fait que sévir les pauvres populations. Alors, ce que nous disons, c'est que...
Il faut se préparer.
Oui, non seulement se préparer, mais il faut aussi...
Faire face à ces gens d'urgence.
Il faut une prise de conscience. Les Américains appellent ça awareness. C'est-à-dire, il faut en parler. Il faut en parler suffisamment que les gens sachent quand même que, bon, au fait, nous ne souhaitons pas que la guerre arrive, nous ne souhaitons pas qu'une épidémie arrive, nous ne souhaitons pas qu'une catastrophe arrive. Mais, et au-delà des simples gestes qui sauvent, il faut que les populations, ou bien il faut que le personnel est qualifié, soit quand même suffisamment formé pour faire face à cette gestion, qui souvent est catastrophique. Nous avons vu, il y a de cela 2 ans, le cas du Brazza, où du jour au lendemain, vous êtes journaliste, vous êtes avec moi, du jour au lendemain, le gouvernement du Brazza a pris la décision de refouler les gens de là-bas. Bon, on ne s'entendait pas. Et brusquement, on était face à cette urgence. Oui. Et comment s'y prendre pour éviter des cas de...
Un afflux de personnes. On n'a pas préparé des structures pour les accueillir.
Et le mal est que, vous voyez, nous avons des intellectuels capables et de faire face à ces genres de choses. Mais le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas préparés.
Mais on dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Donc, on peut dire qu'il faut toujours s'attendre à ces genres de choses.
Tout à fait. Il faut prévoir. Il faut prévoir. Non seulement il faut prévoir, et il faut faire le débat suffisamment. Et encourager, au fait, les personnels de la, les professionnels de la santé, les professionnels de la police, tous ceux-là qui sont supposés intervenir immédiatement, il faut une bonne formation, il faut une bonne conscientisation pour diminuer forcément les risques liés à ces choses-là. Je vous assure, pour le cas de Libéria, par exemple, que nous déplorons tous, si, par exemple, il y avait une bonne préparation, on pouvait facilement et peut-être réduire le cas de décès à 2 ou à 3.
Alors dites-nous, Florentin, comment bien organiser une urgence humanitaire? La première chose, vous avez dit qu'il faut d'abord la prise de conscience de la population.
La prise de conscience.
Oui.
Et de deux, la formation, les renforcements de capacités. Parce que souvenez-vous, vous voyez, et ces cas pratiques qui se passent sur le terrain face aux urgences, et c'est rare d'avoir au fait des thématiques de ce genre dans nos universités africaines. Donc, il n'y a que, au fait, les ONG, les structures spécialisées qui ont, au fait, l'expertise de la matière, qui peut, au fait, apprendre aux gens comment faire face à ces genres de situations. Et malheureusement, les gens ne sont pas informés. Et l'autre jour, à Goma, quand je suivais la radio, et ça m'a fait quelque chose. Je vous dis, mais en 2002, ça s'est passé. Vous voyez, nous sommes pratiquement 15 ans ou 16 ans après. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour que la prochaine éruption... C'est naturel, on ne peut pas éviter cela. Qu'est-ce que nous
pouvons faire? Si ça arrivait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire?
Est-ce que nous allons laisser encore des milliers de gens mourir parce que c'est quelque chose de naturel? Non, il faut se préparer suffisamment. Il faut faire suffisamment le débat pour dire non. La prochaine, peut-être, nous ne le souhaitons pas. Mais si ça arrive, voilà les précautions qu'il faut prendre. Vous voyez, informer...
Et cela doit être communiqué à tout le monde.
À tout le monde. Et forcément, les personnes qui sont supposées prendre en charge cette gestion, ils doivent être suffisamment formés, outillés, et on doit préparer une bonne logistique en place. Sinon, ça serait encore un autre désastre. Ça fait, il y a de cela 2 mois seulement, j'étais dans la région là-bas, ne vous en faites pas. Mais il y a de la panique.
Les gens ont peur,
y compris nous-mêmes qui visitons la zone, parce que vous ne savez pas par où ça va commencer.
Oui.
Mais quelles dispositions réelles nous avons prises pour, au fait, diminuer le danger si ça arrivait? C'est là, au fait, la véritable question. Donc, il y a un défi réel.
Alors, quand vous parlez des formations, qui doit être formé?
Bon.
Par rapport à la réponse à apporter à une urgence humanitaire.
La première catégorie de gens à être formés, c'est ceux-là qui sont en charge. Nous parlons, par exemple, de ceux-là qui sont en charge des zones de santé, par exemple. Ceux-là qui sont à la première ligne de la gestion. Et les professionnels de la santé en règle générale, par exemple. Les infirmiers en règle générale. Les pompistes, par exemple. Les policiers, par exemple. Et ceux-là qui sont, au fait, qui ont pris l'humanitaire comme d'abord profession. Et toute personne, au fait, qui est aussi intéressée, il pourra, au fait, suivre ces coups de renforcement des capacités.
Mais on voit, par exemple, dans d'autres pays, lorsque une catastrophe survient, ou soit un bâtiment qui s'écroule, les gens sont sous les décombres, on voit des corps des volontaires, on les appelle les corps des volontaires, des citoyens qui s'amènent, qui sont formés et qui travaillent pour sauver, extirper les autres des décombres. Alors, est-ce que chez nous, on n'a pas aussi ces genres de corps,
bon,
des volontaires?
Oui,
suffisamment formés, préparés à intervenir en cas de besoin.
Disons que la préparation dont nous parlons a deux grands aspects. Il faut, un, la préparation. Deux, il faut aussi une préparation logistique. Parce que quand ça se passe, il faut aussi des moyens logistiques appropriés. Donc parfois, les gens sont formés, mais les moyens logistiques forcément ne sont pas là. Et ils sont pris au dépourvu. Donc ici, dans un premier temps, ce que nous pouvons faire, c'est d'abord ce que nous faisons, la prise de une sensibilisation, et deuxièmement, former les gens, et troisièmement, demander à notre État de nous aider dans la coordination. Et quand ça arrivait, quand ça va venir, il faut déjà une bonne logistique en place pour diminuer les dégâts.
Voilà, nous avons en ligne Mohamed Zola qui nous appelle depuis Mbujimayi. Vous voulez intervenir dans cette émission. Nous parlons des comment organiser une urgence humanitaire avec Florentin Cotine, coordonnateur du Centre international pour la formation professionnelle spécialisée. Pour participer, appelez au 099-706-63-94.
À la découverte des merveilles du Congo. Le beau Congo, c'est le beau visage du Congo mis en avant. Pamela Amunazo et Jean-Didier Ogobani vous amènent dans des merveilleux coins et recoins du pays. Tous les samedis à 7h30 et 15h10, le jeudi à 15h30.
Comment bien organiser une urgence humanitaire? Mohamed Zola, vous êtes en Mbujimayi, bonjour.
Bonjour, bonjour Dodi Dangil Ngachamba, bonjour à l'invité.
On vous écoute, bonjour. Quelle est votre question?
Oui, j'ai quatre petites préoccupations Dodi Dangil Ngachamba.
Oui?
Oui, la première est celle-ci. Est-ce qu'on peut prévenir une catastrophe?
Voilà, est-ce qu'on peut prévenir une catastrophe? Deuxième question.
Deuxième question. J'aimerais un peu demander à l'invité de me citer quelques catastrophes qu'on ne peut pas prévenir.
Ok.
Oui, les trois. Qui me donne un peu les synonymes des catastrophes.
Et la quatrième question.
Et la quatrième, j'aimerais un peu demander à l'invité ou bien à Dodi Daniel Ngachamba ou bien à un intervenant de me dire un peu catastrophe en Tchiluba, c'est quoi? Un catastrophe.
Bon, à Tchiluba, en tout cas, on n'a pas une idée, peut-être que vous pouvez faire des recherches là-bas, comme vous êtes en Mbujimayi et nous le communiquer. Je ne sais pas si Monsieur Florentin a une idée là-dessus, non. Alors,
non,
la
non.
Première question, ça veut dire, il dit comment prévenir une catastrophe? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour prévenir une catastrophe naturelle?
Non, il a d'abord demandé si on peut éviter, je pense que c'est sa préoccupation. Le tout dépend de... Il y a plusieurs types de catastrophes. Vous savez, nous avons, par exemple, les éruptions volcaniques et que nous ne pouvons pas prévenir.
Mmh. Une inondation.
Une inondation que l'on ne peut pas prévenir. Mais au fait, si on est bien préparé...
Ou un accident grave.
Ou un accident grave. Ou les séismes.
Crash,
les
oui,
séismes, par
séisme,
exemple.
Oui.
Nous avons le tsunami qui s'est passé il y a de cela des années en Asie.
Bien sûr.
Qui peut au fait éviter au fait ce genre de catastrophes. Et c'est des choses naturelles parfois qui arrivent, qui dépassent même l'entendement de l'homme. Et ce que nous disons, ce n'est pas au fait de... C'est la préparation à ces ripostes qui est le plus important ici. En RDC, par exemple, comme catastrophe, nous avons enregistré les inondations, les glissements de terrain, les éruptions volcaniques, les séismes, les pluies avec torrentielles et qui engendrent des dégâts vraiment matériels très, très importants.
Oui.
Donc, pour être bref, les catastrophes naturelles, personne ne peut les éviter. Mais par contre, si vous voyez par exemple le service météo, qui, parfois, à travers ces espèces scientifiques, ils sont capables, à travers certaines études, de nous prévenir.
Hein, de vous dire qu'il y aura des pluies torrentielles
dans quelques jours.
Attention, ceux qui habitent le long des rives.
Voilà. Et prenez vos précautions et commencez pas à quitter les lieux avant que cette tempête-là vous arrive. Là, au fait, ils sont des experts dans le domaine. Et nous, au fait, ce que nous sommes là pour faire, c'est de coordonner cette prise de conscience pour que les gens puissent savoir qu'il y a, au fait, qu'il y a des défis. Nous vivons dans un monde aujourd'hui rempli d'opportunités, mais également rempli de défis. Mmh. Et ces défis-là, si nous ne sommes pas préparés, forcément, nous serons les victimes.
Mais la préparation commence, vous avez dit, par la prise de conscience.
La prise de conscience d'abord.
Et la formation.
La formation pour ceux-là qui sont supposés intervenir. C'est pas tout le monde peut faire un geste pour sauver, mais la gestion elle-même. Vous comprenez un peu ce que dit, c'est-à-dire, si nous sommes dans un camp et puis je tombe, si tu peux faire, tu peux me sauver. Mais la gestion de 10 000 personnes, de 15 000 personnes, comment il faut le faire? C'est ça dont nous parlons. Donc, voilà, pour maintenant, l'auditeur a demandé si on peut lui citer quelques exemples de catastrophes. Nous avons déjà cité.
Vous avez déjà cité, synonyme de catastrophe.
Antilouba, je ne sais pas. Vous n'avez...
Soupi Nyembo nous appelle de Kalima. Bonjour Soupi.
Bonjour, je dis bonjour à notre invité. Merci beaucoup pour la parole dont vous me donnez. Et juste nous à Kalima, nous avons eu un certain temps passé une guerre du côté de Shabunda et beaucoup de personnes avaient quitté même leur milieu pour venir ici chez nous à la cité de Kakutia et les autres s'étaient arrêtés du côté de Kikungwa et on avait même organisé une aide à, en faveur de ces gens-là et quand on devait par exemple avoir 200 000 francs ou 300 000 francs pour une personne, on ne donnait plus cet argent directement, mais on achetait seulement les biens, par exemple les matelas, la farine, les riz, l'huile, et ainsi de suite. On évaluait la valeur de ces 200 000 francs-là pour vous donner. Et beaucoup de gens avaient reçu ces montants-là, et donc beaucoup de gens avaient reçu ces aides-là. Mais la question dont je pose auprès de notre invité, parce que j'avais dit, il y avait la vente de ces jetons. Parce qu'avant de vous donner ces biens, on demandait quelques questions, par exemple trois questions. Quel est le nom de votre rivière dont les femmes construisent, donc les femmes allaient pour puiser de l'eau? Et on demandait le nom de votre village, ainsi de suite.
Alors, quelle est la question? Quelle est la question par rapport à tout cela, à ces déplacés de Shabunda qui sont arrivés dans votre village? Qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à tout cela?
Oui, j'avais remarqué qu'il y avait une vente de jetons, parce qu'il y avait des recevoirs ces dons, on donnait des jetons, et certaines personnes même se permettaient d'acheter trois personnes, trois jetons ou cinq jetons, j'ai dit. Et une personne reçoit les biens de valeur de 5 jetons. C'est pourquoi je profite pour demander la question auprès de votre invité, la question de savoir, est-ce que ces aides-là sont aussi organisées pour bénéficier beaucoup plus pour ces gens-là qui sont les chefs de ces aides? Voilà un peu, je vous remercie.
Merci beaucoup. Malonga, vous êtes à Banonouville, bonjour.
Bonjour aujourd'hui et bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. En tout cas, le sujet vraiment pressant de notre saison qui nous guette déjà et qui commence à créer cette catastrophe naturelle. En réalité, ce que l'invité vient de nous dire là, c'est réel. On ne peut pas éviter la catastrophe naturelle, mais on peut le prévenir. Oui. On peut aussi l'éviter. Dans quoi? Ce n'est pas pour rien l'État a mis en place le service de l'urbanisation. Souvent, dans des habitations où la catastrophe naturelle s'exprime beaucoup, il y a le problème des toitures s'envolent, ceci, cela. Mais comment on peut prévenir cela? C'est par la volonté politique des dirigeants. Mais la population, souvent, je dis dans notre radio de la paix, donc Capi, que la population est confondue à des enfants de la famille. Si les parents ne prévoient pas une meilleure vie de ses enfants, un peu plus loin, là, ces enfants auront toujours des difficultés. Si l'État prévoit des bons bâtiments, des bons logements, des bons villages, de belles villes, vous verrez qu'on peut échapper à ces catastrophes-là. L'État qui voit la population se développer auprès d'une rivière, et il sait que la rivière, à la période de la crise, les eaux vont atteindre là-bas. Et oui, ils négligent cela. Ils entendent seulement que non, il y a beaucoup de populations qui se perdent de cela. Ça, je demande, et c'est ce que je demande, et j'ajoute, de dire que c'est l'État qui a vraiment la charge vraiment d'éviter et de prévoir cette catastrophe naturelle qui s'impose souvent à la vie humaine. Tout, c'est la conscience que le sujet a dit, il faut sensibiliser, il faut revoir, à mettre un repli vers la saison. Le mois de novembre est prêt. Or, tout le mois de novembre, c'est une forte pluie et avec des vents. Vous verrez encore là, vous êtes les journalistes, d'ici peu de jours, vous allez informer, il y a des villages, il y a des toitures, il y a des écoles qui s'envolent, c'est là. Alors, qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que les dirigeants font pour que ces incendies-là nous échappent?
D'accord, merci beaucoup.
C'est ça mon occupation aujourd'hui.
Merci beaucoup à Jules Kazadi, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur Jodi et bonjour à l'invité.
Nous parlons des urgences humanitaires, comment bien organiser une urgence humanitaire?
Je suis très content par rapport au sujet. En tout cas, il y a quelque chose qu'on est en train de déplorer ici, hein, chez nous à Lubumbashi. Donc, quand il y a une catastrophe, vous verrez les gens, au lieu de secourir les gens, les accidentés et tout, bon, les gens se mettent là à filmer l'accident, au lieu de sauver l'accident, les accidentés. Donc, c'est ce qu'on est en train de déplorer. Et puis, les gens se mettent à voler les histoires, à fouiller les gens dans leur poche. Alors, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Et j'ai une question que je voulais poser à l'invité. Quand vous êtes dans la maison, par exemple, il y a une catastrophe, soit il y a une maison qui vient de prendre feu.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire soudainement là? Parce qu'il y a les autres qui, quand il y a ce genre de choses, il y a les autres qui n'arrivent même pas à faire quoi que ce soit. Peut-être ils perdent même des connaissances.
D'accord.
Alors, je voulais juste demander, quand il y a des choses comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire soudainement là?
D'accord, merci Jules. Voilà, Jules. Bien, Jules de Lubumbashi, nous vous disons merci. Panzou Gloire nous appelle d'Egbadolité, bonjour.
Bonjour Radio Café.
Bien, aujourd'hui nous parlons de comment bien organiser une urgence humanitaire. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets?
Oui, justement, j'avais une ou deux questions à poser à notre invité. Mais avant cela, j'aimerais un peu vous faire remarquer quelque chose de déplorable au sein de notre milieu. Là, je voulais parler de routes, le cas des routes. Donc, monsieur le journaliste, donc, si vous étiez ici, dans notre milieu, vous allez constater qu'autour des routes principales, il y a des grands tours à tel point qu'il y a même des véhicules qui en tombent. Donc, de tels tours autour des routes au niveau de notre milieu ici.
Oui.
Donc, il y a des plus de 6 mètres de profondeur. Est-ce que là au moins, est-ce que là, on peut pas parler aussi d'urgence humanitaire dans ce cadre? Et la deuxième question que j'aimerais poser à notre invité, c'est celle de savoir si la nuance qui existe entre l'urgence et l'urgentisme. Ah, c'est ça la question, monsieur.
Merci. Monsieur Florentin, vous avez la parole.
Oui. Et une fois encore, nous remercions les auditeurs pour l'intérêt qu'ils portent d'abord au sujet. Je pense que le premier intervenant avait parlé et sa question était relative aux aides. Et ce que nous...
Au niveau des camps de déplacés sûrement. Oui. Parce que là, on donne des jetons pour aller chercher la nourriture. Et certains, malheureusement, qui sont malhonnêtes, se tapent 2, 3, 4 jetons.
Oui. Mm. Bon, ce qu'il faut d'abord dire, puisque nous sommes là pour la conscientisation, et les besoins, nous avons au fait 4 grands ou 5 grands catégories de besoins face à la gestion des situations d'urgence. Le premier, c'est l'approvisionnement en eau, l'assainissement et la promotion de l'hygiène. Le deuxième, c'est la sécurité alimentaire et la nutrition. Le troisième besoin, c'est la construction des habits et habitats et les articles que nous appelons des articles non alimentaires. Et le quatrième, c'est les actions sanitaires. Alors, par rapport à ces besoins, quand l'urgence arrive, il y a souvent ce que nous appelons le fonds humanitaire et qui vaut au fait une enveloppe et bon, qui est là pour faire face aux urgences. À ce titre, il y a des agences qui, au fait, gagnent des projets et qui sont supposées gérer consciemment ces projets-là. Alors, et il arrive que parfois il y a des dysfonctionnements au niveau de l'opération elle-même et ce que nous déplorons. Bon, mais la question de l'auditeur, c'est de savoir si, au fait, je ne sais pas, il veut savoir la légalité qui est autour de la chose. La première intention était d'aider les gens. Maintenant, si dans l'aide, les gens sont mal intentionnés, donc c'est un dysfonctionnement qui arrive. Donc, nous interpellons tout simplement et les agences qui font ces genres de travaux, au fait, de mieux organiser ça dans le futur. Le deuxième auditeur, au fait, a parlé de...
Il attribue plus la responsabilité à l'État. D'après lui, l'État doit prévenir en tant que bon père de famille. On laisse les gens construire autour d'une rivière, alors qu'on sait que c'est très dangereux.
Tout à fait.
Il parle aussi des toitures emportées durant le mois de novembre. Il pleut abondamment. Parfois, les toitures des écoles, des maisons sont emportées. D'après lui, c'est l'État.
C'est l'État. Bon, face à ça, moi, c'est une solution beaucoup plus durable. Parce que c'est une combinaison de choses. Parce que ce qui fait que les gens construisent dans ces vallées, dans ces marins, c'est d'abord une crise économique dont nous ne sommes pas ici pour parler, par exemple. Donc, c'est une matrice de problèmes qui engendre ce genre de situation. Mmh. Alors, donc, pour les régler, forcément, il faut une solution durable. Donc, vous n'allez pas me dire maintenant que en novembre arrive, il faut au fait déguerpir tous ceux-là, au fait qui se sont installés dans ces vallées. Avec quel moyen l'État fallait faire déguerpir? Donc, il faut beaucoup plus une planification à long terme et une communication effective par rapport aux problèmes auxquels cette même population font face. Et si on ne le fait pas, évidemment, nous serons encore surpris de voir que du jour au lendemain, qu'il y a des morts face à des
par exemple, les gens qui habitent dans ces zones dangereuses, là où il y a souvent des inondations, faut-il les former aussi ou il faut tout simplement les
conscientiser.
Les conscientiser. Qu'est-ce qu'il faut leur dire, par exemple?
Dommage, ils ne sont pas en formation. C'est-à-dire, il faut tout un plan de sensibilisation. Il faut tout un projet de sensibilisation, qu'ils comprennent le danger d'abord. Hein? Et parce que mieux vaut vivre peut-être plus loin de la ville que de vivre proche de la ville, mais en danger. Si on peut déjà réussir à leur transmettre ce genre de communication, je pense qu'ils vont comprendre. Mais tenez-vous tranquille, et ces populations sont informées. Mais combien de fois nous n'avons pas assisté à Kinshasa que l'État lui-même, au fait, a cassé des maisons? Vous êtes d'accord avec moi? Et plusieurs fois. Et les mêmes populations, après que les gens ont fait les déguerpis, 48 heures après, ils se réinstallent. C'est là le problème. Bon. Donc, mais qu'est-ce qui le pousse au fait à s'installer? C'est une situation économique d'abord. C'est une crise économique. Lui pense que, en restant proche de la ville, qu'il va gagner peut-être son pain facilement. Donc, il s'en fout de la manière dont vous lui expliquez. Donc, il faut toute une planification, toute une urbanisation. Elle existe. Mais le problème, c'est que l'État, souvent, ne déploie pas les moyens pour construire au même moment. Donc, la route, et quand tu vas au ministère du plan, c'est prévu qu'il y a une route qui passe par ici. Mais 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans...
Les gens ont construit des maisons là-bas.
Voilà. Donc, par rapport à ça, on ne peut pas... C'est juste comme nous le faisons déjà, la sensibilisation. Et le troisième auditeur a parlé de quand il y a feu, qu'est-ce qu'il faut faire. Et pour le moment, je pense que l'État dispose d'un service qui est au fait les sapeurs-pompiers.
Et les incendies font partie des catastrophes naturelles.
Non, pas naturelles. Bon, enfin, c'est mixte. Et quand nous disons naturel, c'est que nous ne le contrôlons pas. Et l'incendie, au fait...
Est-ce que ça peut être, on parle de... C'est une urgence humanitaire?
Oui, ça va. Oui, forcément, c'est une urgence. Parce que quand il y a feu, au fait, et quand la maison prend feu, des milliers de personnes fuient. L'autre jour, nous avons vu le cas de l'immeuble Empire, ici, en ville.
Mais ici, à Kinshasa.
Ici, à Kinshasa, en pleine ville. C'était catastrophique, non? Mais là...
Il y a aussi à Kitambo et de l'autre côté des bons marchés. Voilà. Il y a de plus en plus de cas comme ça.
Voilà. Donc, ça, au fait, le seul service qui peut faire la chose pour le moment, c'est le service de l'État, les sapeurs-pompiers. Ils sont les mieux formés, les mieux équipés. Maintenant, je comprends les gens, et il arrive que, parfois, les gens déplorent le fait qu'ils ne sont pas là immédiatement. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est toujours le moyen logistique. Et ailleurs, quand vous êtes aux États-Unis ou en France, quand il y a l'incendie, et les sapeurs, ils sont capables de prendre des hélicoptères, ils sont capables de prendre des avions, et en lieu et place de prendre la route qui va les prendre encore 10 minutes, ils interviennent par là.
Donc, quand il y a des feux de brousse, même en Europe.
Bon, tout à fait. C'est ça. Tout ce que nous disons ici, il faut d'abord que les autorités aussi comprennent. Donc, la conscientisation dont nous parlons, ce n'est pas seulement au niveau de la population, c'est au niveau de tous les acteurs, y compris nous-mêmes qui parlons de la formation. Et il faut que nous comprenions d'abord que c'est un danger et qu'il faut investir dedans, qu'il faut tout un budget et qu'il faut investir dedans constamment. Et vous savez, quand je suis en Amérique, et les Américains disent non, une seule vie américaine que nous perdons, c'est beaucoup pour nous. Et au nom de ça, ils sont capables d'aller en guerre pour un seul Américain. Alors, mais nos États africains, est-ce qu'ils ont déjà pris cette conscience pour dire non, un seul de nos citoyens qui meurt, hein, et par une mauvaise coordination, c'est très important pour nous. Alors, lorsque nous allons arriver à ce niveau, au niveau du débat, vous comprenez un peu. Là, maintenant, les solutions vont commencer par arriver d'elles-mêmes parce que on va déjà déployer des forts moyens en logistique et quand ça se passe, l'intervention maintenant sera plus rapide. Sinon, ce qui se passe souvent par rapport aux incendies, l'intervention est là, mais souvent
en retard.
En retard. et nous déplorons déjà des pertes, des dégâts avant qu'elle n'arrive en retard. Et comme le dit souvent les médecins, ça devient peut-être parfois médecin après la mort. Et le quatrième auditeur, je pense que
il déplore les routes qui sont abîmées là-bas de l'ité. Il y a beaucoup de trous. Alors il dit et les véhicules parfois se renversent. Et d'après lui, est-ce que ce n'est pas une urgence humanitaire?
Bon, non. Je pense que là, il faut tout simplement que les autorités ou les personnes responsables, n'est-ce pas, de réhabiliter ces routes de desserte agricole, que chacun puisse faire son travail.
Ce n'est pas une urgence humanitaire.
On peut pas classer tout parmi les urgences. Ça, au fait, si on répare la route, il n'y aura plus de véhicules accidentés. Et la route, naturellement, et si on ne fait rien, c'est une route naturelle. Mais dès lors que nous voulons, au fait, l'utiliser pour des buts commerciaux, et arrangeons la route pour que ça soit profitable, non seulement pour les commerçants, mais aussi pour l'État. Et là aussi, demander la différence entre l'urgence
et l'urgentisme.
L'urgence, c'est cette situation dont nous parlons et qui arrive que vous et moi, nous ne maîtrisons pas et qui entraîne forcément des dégâts humains et matériels.
L'urgentisme, qui exige une réponse immédiate aussi.
Oui. Et l'urgentisme, au fait, c'est celui-là qui est formé pour faire face au fait
aux urgences,
c'est ça. Et voilà un peu ce que nous pouvons dire.
Bien, nous parlons de comment bien organiser une urgence humanitaire. Vous nous avez dit la première chose, il faut la prise de conscience de la population et puis la formation.
Oui, la formation.
La formation et puis la logistique. Alors, en parlant de la logistique, qu'est-ce qu'il faut, par exemple, pour intervenir rapidement en cas d'urgence humanitaire?
Le tout dépend, au fait, de l'urgence. Nous avons cité au début, par rapport à la RDC, quelques types d'urgence. Il y a les inondations et les équipements que vous allez utiliser, par exemple, pour les inondations ne sont pas les mêmes choses que les glissements de terrain et même chose que pour les éruptions volcaniques. Mais ce qui est important, c'est comment gérer la population. Parce que quand ça se passe,
il y a la panique, les gens qui fuient dans tous les sens, par exemple, en cas d'éruption volcanique.
Voilà, il y a la panique. Et quand il y a la panique, nous ne nous intéressons plus. Nous voulons cadrer au fait la situation. Donc un, et comme je l'ai dit, il faut une sensibilisation. Deux, il faut une préparation. Trois, il faut une évaluation des besoins. Et là au fait, il faut des professionnels pour le faire. Et c'est en ça que la formation, elle est importante. Il faut au fait apprendre à évaluer. Au début de l'émission, je vous ai cité déjà quatre grands besoins pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Il y a d'abord l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène, et la sécurité alimentaire, la nutrition. Il y a les abris, par exemple, les articles non alimentaires, et il y a aussi maintenant l'action sanitaire. Donc voilà quatre grandes catégories de besoins. Donc c'est les professionnels maintenant, ceux-là qui sont suffisamment formés, qui vont regarder la situation, la circonférence de la situation, le nombre de populations est affectées par ces genres de crises humanitaires. Et c'est à eux, mais c'est eux, ces experts-là, qui vont nous dire au fait, et nous avons fait l'évaluation, il faut ceci. Et dans les situations où les gens sont préparés, organisés, et forcément, quand on fait cette évaluation, il y a une riposte immédiate qui est faite. Et là, maintenant, on intervient immédiatement sur le terrain pour pouvoir sauver des vies humaines.
On va accueillir Mbali qui nous appelle de Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour, Radio Café.
On vous écoute, nous parlons de comment bien organiser une urgence humanitaire avec Monsieur Florentin Cotine, coordonnateur du Centre international pour la formation professionnelle spécialisée. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Mbali?
Ok, merci. Je vous ai appelé pour aider notre premier intervenant qui demandait la catastrophe en Chiluba.
Oui.
C'est Chikumina.
Chikumina.
Chikumina, oui, exactement.
D'accord. Donc, Chikumina. Mohamed Zola, vous êtes à Mbujimayi, voilà, il y a un auditeur qui a suivi votre question, et Mbali, merci d'avoir appelé pour nous donner cette réponse. Chikumina, voilà, c'est ça qu'on appelle, en Chiluba, catastrophe naturelle. Okay. Vous avez retenu, Monsieur Florent.
Je viens d'apprendre aussi quelque chose. Je me suis fait rembourser en Chiluba. Merci pour l'auditeur.
Alors, vous parlez des besoins, il y a d'abord les besoins en eau. Donc, vous avez dit, et puis l'hygiène, les abris, et puis...
Il y a au fait quatre catégories. Sans oublier la protection, bon. Mais les besoins, c'est d'abord l'eau. Parce que quand ça se passe, quand ils se déplacent, ils n'ont plus de l'eau, souvent, pour la plupart des cas. Et deuxièmement, c'est l'assainissement et la promotion de l'hygiène. Et c'est dans ça que beaucoup de gens partent. C'est-à-dire, il faut penser rapidement à comment les gens vont déféquer, quelles sont les normes humanitaires.
Dans les camps des déplacés dans des camps qui vont être érigés.
Tout à fait. Vous voyez 10 000 personnes, 20 000 personnes se déplacer du coup et qui se concentrent dans un endroit là où, qui n'avaient pas les infrastructures appropriées.
Il faut prévoir les sanitaires.
Voilà, rapidement. Et après ça, il y a la sécurité alimentaire. Et c'est-à-dire que quoi? Bon, il faut qu'ils mangent aussi.
Bien sûr.
Parce qu'ils ont laissé tout leur business et autres fuyant la mort et ils se sont retrouvés dans ces situations déplorables. Il faut forcément penser à la sécurité alimentaire. Les abris aussi, parce que les endroits où ils vont se déplacer pour la toute première fois, il n'y avait rien. Il faut penser aussi aux abris. Et ce que nous appelons souvent les articles non alimentaires, c'est-à-dire c'est pas de l'aliment, mais c'est des gobelets, c'est des cuillères, c'est des plats et des seaux, des boquettes qu'ils vont forcément utiliser pour leurs besoins. Et après tout, maintenant, il y a l'action sanitaire, c'est-à-dire celui qui était malade, mais qui visiblement était bien portant, dans ce déplacement, il va tomber malade.
Bien sûr.
Et quand nous parlons de 10 000 personnes, il y a des maladies contagieuses, par exemple. Quelqu'un qui est infecté, il transmet rapidement la maladie à d'autres personnes.
Et ça se répand très vite.
Voilà. Et c'est ça même la chose. C'est ça la gestion. C'est ça la gestion. Et c'est plus qu'une simple geste qui peut sauver. Et donc, c'est comment canaliser la chose pour que le pire ne puisse pas arriver. Voilà les quatre grandes catégories. Après ça, maintenant, il faut la protection, c'est-à-dire tout ce qui est droit de déplacer. Et il ne faut pas en abuser parce qu'ils sont en situation précaire, et ils sont en situation d'urgence. Il ne faut pas qu'on ne puisse pas profiter de cette situation.
De leur faiblesse.
De leur faiblesse. Donc, voilà les quatre grandes raisons. Et comme je l'ai dit, ces activités de préparation, c'est en prévision d'une situation d'urgence qui permet d'assurer une intervention plus opportune et mieux adaptée et au contexte local. Et voilà.
Et si je comprends bien sa demande, il faut qu'il y ait déjà un budget.
Forcément.
On doit tout prévoir.
Forcément, il faut un budget. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout État qui se respecte doit au fait prévoir. Et prévoir au fait ce qui dérange en Afrique, je l'ai dit une fois, c'est qu'on prévoit tout sans prévoir ces choses-là qui sont les plus importantes. Et oui, c'est ça.
Et on est pris au dépourvu.
On est pris au dépourvu. Et maintenant, vous vous imaginez qu'il y aura une audience au fait ici, en RDC, ou des gens de catastrophe de Goma ou je ne sais pas quoi, nous ne le souhaitons pas. Et que c'est nos amis et toujours les Occidentaux, une qui va venir de l'Amérique.
Pour venir
intervenir. Mais pendant combien de temps ils vont faire le vol d'abord pour faire combien de temps, s'il vous plaît?
C'est ça.
Et combien de gens allaient déjà mourir et pendant
ce temps.
Soit
on demande aux églises, aux personnes de bonne volonté de pouvoir intervenir.
Donc il faut toute une structure. Il faut toute une structure qui doit penser à la chose constamment et réviser la matière constamment, l'adapter aux réalités locales.
Florentin, pour ceux qui veulent apprendre, est-ce que vous donnez des formations pour tout le monde? Comment vous joindre? Comment vous contacter?
Bon, comme vous le savez, nous ne sommes pas, c'est pas pour la première fois que nous sommes, nous avons intervenu sur le plateau de Radio Capi. Merci. Et donc, le centre est situé sur l'avenue et Bassankoussou, en diagonale avec 24, l'avenue de 24 novembre.
Ici à Kinshasa.
Ici à Kinshasa. Et référence arrêt pâtisserie. Donc, il suffit d'être sur l'avenue de 24 et vous demandez l'arrêt pâtisserie.
Et pour ceux qui sont dans les autres provinces, comment vous contactez un numéro?
Oui, un numéro. D'abord, pour ceux qui sont au fait au Nord Kivu, nous avons aussi une représentation là-bas à Goma déjà qui fonctionne pratiquement depuis une année. Et comme téléphone, nous avons le 085 32 20 079. Je répète, 85 32 20 079 ou le 82 76 96 767. 82 76 96 767.
Bien, merci Florentin Cotine. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du Centre international pour la formation professionnelle spécialisée, CIF en sigle.
Merci.
Bonne journée.
Merci à vous.